Une semaine d'actualité. Éric Bataillon.
Bonjour, ravi de vous retrouver cette semaine et merci de votre fidélité. Comme chaque samedi, avec la rédaction, nous allons revenir sur 7 jours d'information. Un rendez-vous hebdomadaire que vous pouvez podcaster sur le site de la radio www.rfi.fr. Cette semaine, notre invité est un écrivain, journaliste, grand voyageur, spécialiste des chrétiens d'Orient. Bonjour Sébastien de Courtois.
Bonjour.
Vous publiez chez Le Passeur Éditeur ces lettres du Bosphore. Alors le Bosphore, c'est un détroit qui sépare l'Europe orientale de l'Asie mineure, pour les géographes en tout cas. Est-ce aussi un trait de séparation pour Istanbul où vous habitez ?
Ah oui, bien entendu, le Bosphore est une véritable frontière entre deux villes, entre la ville européenne et la ville asiatique. D'ailleurs, les Turcs le disent eux-mêmes, on va dîner en Asie ou travailler en Europe, hein, ça dépend de quel côté on se situe. Donc c'est véritablement ancré dans la vie, et même dans les mœurs un petit peu, ça l'humeur est très influencée par le Bosphore. C'est quelque chose qui est très important pour la vie du Stambouliote.
Alors votre livre est un recueil de chroniques. La première débute le 6 novembre 2015. En quoi cette date est-elle importante ?
Alors ce sont des tribunes que j'ai écrites un petit peu à la manière d'un journal en fait, sur ces deux dernières années qui m'ont semblé importantes parce qu'il s'agit à mon sens d'un tournant, d'un véritable virage qui hélas ne va pas dans le bon sens. Hein. Nous avons vu l'évolution politique de la Turquie ces derniers mois et précisément après 2015. C'est tout simplement les élections du 1er novembre 2015 où il y a eu la confirmation de l'autoritarisme au pouvoir. Alors certes une élection qui a été faite en bonne et due forme, mais ce qui a précédé cette élection donc du 1er novembre 2015 est basé sur un mensonge. Voilà. Comme si il y avait une insécurité et que le gouvernement était capable seul de créer cette insécurité, mais en fait une insécurité qu'il a lui-même créée.
Alors nous reviendrons plus longuement sur votre livre tout au long de cette émission, Sébastien de Courtois. Dans quelques instants, nous parlerons de la Grande-Bretagne, bien entendu, et du Qatar également. Avant cela, je vous propose d'écouter le directeur du quotidien français Libération à propos de la situation du photoreporter Mathias Depardon, emprisonné en Turquie, Laurent Geoffrin.
Nous craignons que ce soit une motivation cachée de cette affaire, c'est-à-dire pour dire aux journalistes, si vous venez, on ne peut-être pas vous empêcher de venir, mais à vos risques et périls. Vous voyez ce qui est arrivé à Depardon, qui n'avait rien fait. Alors, vous qui voulez enquêter sur des problèmes turcs, vous risquez de vous retrouver un mois, peut-être plus, en prison, à l'est de la Turquie, sans droit de visite, au secret pratiquement. Et donc, oui, c'est un message. Je ne crois pas que ça dissuade beaucoup nos confrères, mais enfin, c'est le but.
7 jours dans le monde.
Coup dur pour Theresa May au Royaume-Uni. Le raz-de-marée annoncé pour les conservateurs aux législatives de jeudi n'a pas eu lieu. Certes, les Tories restent le premier parti du pays, mais ils perdent la majorité absolue à la Chambre des communes. Le scénario catastrophe se confirme pour Theresa May, qui avait organisé ses élections législatives anticipées pour, au contraire, renforcer sa majorité absolue en vue des négociations sur le Brexit. Des négociations qui, du coup, ne se présentent pas sous les meilleurs auspices, estiment certains chefs d'entreprise ou Outre-Manche, Anne Verdaguer.
Réaction presque immédiate du PDG d'Aston Martin après le résultat de ses élections anticipées. Andy Palmer encourage fortement la Grande-Bretagne à clarifier sa position vis-à-vis de l'Europe et à rassurer les investisseurs. L'absence de majorité absolue pour les conservateurs ajoute de l'incertitude là où les investisseurs réclament au contraire plus de visibilité sur la circulation des travailleurs ou encore l'accès au marché européen. Ce manque de clarté politique risque d'aggraver une économie britannique qui montre déjà des signes de fragilité. Les salaires baissent, la croissance ralentit, les prix augmentent depuis quelques mois et les signaux montrent que la machine britannique est en train de s'enrayer. La chute de la livre de 15% depuis le vote pour le Brexit il y a un an témoigne de la fébrilité des marchés et d'une inquiétude chez les investisseurs. La question principale étant la suivante. Et si les négociations avec l'Union européenne échouaient ? Theresa May n'a désormais plus les coudées franches pour négocier. Du côté de Bruxelles, on admet à présent qu'un clash n'est pas improbable.
Par ailleurs, l'attentat de samedi dernier à Londres a peut-être joué un rôle dans ce résultat. C'était en milieu de soirée, une camionnette qui fonce sur la foule en renversant des passants, trois hommes qui en sortent et poignardent au hasard des badauds et les clients des pubs, les forces de l'ordre qui interviennent et les abattent. Pas d'allégeance à Daesh, mais le groupe islamiste armé revendique cette action qui fait cette mort et plusieurs dizaines de blessés. Dès lundi, la première ministre Theresa May faisait de nouvelles propositions concernant le terrorisme. Toufik Ben Aïchouch.
Le moment est venu de dire trop c'est trop, a déclaré la première ministre britannique au cours d'une allocution télévisée. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas prétendre que les choses peuvent continuer ainsi. Nous sommes persuadés d'avoir affaire à un nouveau type de menace, affirme Theresa May. Et elle propose quatre domaines où des changements doivent être mis en œuvre. D'abord, la lutte contre le mal, dit-elle, ne pourra être remportée qu'avec des opérations militaires. Second point, il faut mettre en place de nouvelles réglementations pour réduire l'espace d'expression des terroristes sur Internet. La première ministre britannique précise « Nous devons travailler avec les gouvernements démocratiques alliés pour conclure des accords internationaux sur la régulation du cyberespace. Troisièmement, il faut davantage de moyens pour identifier et éradiquer l'extrémisme au sein de la société britannique. Enfin, quatrième et dernier point, la stratégie de lutte antiterroriste doit être améliorée à la lumière de l'évolution des menaces. La première ministre britannique a notamment évoqué la possibilité d'allonger les peines d'emprisonnement relatives aux infractions liées au terrorisme, même dans le cas de délits mineurs.
Limogé par Donald Trump le 9 mai dernier, l'ex-directeur du FBI, James Comey, a été auditionné par le Congrès jeudi. S'il a reconnu que le président américain ne lui avait pas demandé explicitement d'arrêter l'enquête sur les ingérences russes pendant la campagne électorale, il a ajouté qu'il avait interprété cette demande comme un ordre de l'abandonner. Donald Trump, lui, se déchaîne sur Twitter à propos de son décret immigration qui bloque l'entrée dans le pays des ressortissants de 6 pays musulmans. Après 2 rejets, le président attend désormais que le dossier soit tranché par la Cour suprême. Mais son langage sans filtre risque de braquer la plus haute cour américaine contre lui. Anne-Marie Capomaccio à Washington.
Le décret immigration de la Maison-Blanche n'est pas une interdiction de voyager, ni une interdiction d'entrée des musulmans aux États-Unis. C'est simplement, expliqué récemment le ministre de la Sécurité nationale, une pause temporaire qui permettra de revoir le système des visas. Mais sur les réseaux sociaux, le président a une nouvelle fois contredit John Kelly. Il faut en finir avec le politiquement correct, écrit Donald Trump. Ce décret est bien une interdiction de voyager, explique en 140 signes le président. On se demande aujourd'hui dans quel état d'esprit sont les juristes dont la mission difficile est de défendre la politique de l'administration devant la plus haute juridiction. Ses avocats ont jusque-là tenté, sans succès, d'expliquer qu'il ne s'agit en aucune manière de cibler les musulmans. Ces cafouillages et le langage sans filtre de Donald Trump vont peut-être définitivement enterrer son texte de loi, mais ces dérapages sonnent comme un langage de vérité aux oreilles de sa base électorale et c'est manifestement à cette base que s'adresse le président des États-Unis.
Sébastien de Courtois, vous vouliez réagir à la situation de Mathias Depardon, que
je
vous
connais
bien.
Je connais bien Mathias, c'est un confrère et un ami qui est basé à Istanbul depuis 5 ans. Et il se retrouve dans une situation absolument épouvantable où il a été obligé de faire une grève de la faim pour que les autorités turques prennent en considération ses demandes, qui étaient tout simplement ses droits, c'est-à-dire de pouvoir recevoir une visite consulaire, tout simplement. Et ça lui a été accepté après 2 semaines de grève de la faim. Voilà.
Vous savez en plus l'endroit où il a été arrêté.
Oui, exactement. Il a été arrêté à Sankayev, qui est cet endroit magnifique sur le Tigre. Là, on est dans le sud-est de la Turquie et c'est des endroits que j'ai parcourus maintes et maintes fois depuis une quinzaine d'années. Et il y avait, mais strictement jamais eu aucun problème auparavant. Donc, on voit ce genre de détails, si vous voulez, que le système politique turc accepte de moins en moins d'intrusions étrangères, entre guillemets, alors qu'il ne faisait que son métier.
Une semaine d'actualité.
Le Qatar au banc des accusés, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, Bahreïn, les Émirats Arabes Unis ainsi que la Cyrénaïque libyenne et le sud du Yémen ont rompu leurs relations diplomatiques avec l'Émirat en l'accusant de faire le jeu de l'Iran. Ces dernières semaines, la presse arabe était montée en puissance contre le Qatar jusqu'à cette décision annoncée dimanche. Olivier Dallage.
Tout semble s'être joué les 20 et 21 mai lors de la visite de Donald Trump en Arabie Saoudite, où devant une cinquantaine de chefs d'État musulmans, le président américain a désigné l'Iran comme l'adversaire absolu et la source de tout terrorisme. Un soutien résolu et sans nuance à la politique défendue par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, qui avec Bahreïn et l'Égypte sont sur une ligne dure contre l'Iran chiite, mais également contre les frères musulmans sunnites. Or, le Qatar a toujours veillé à garder de bonnes relations avec l'Iran et donne l'asile aux militants des frères musulmans et du Hamas pourchassés chez ses voisins. Dès le départ de Trump de la région, tout est allé très vite. La presse régionale a publié des propos qu'aurait tenus l'émir du Qatar faisant l'éloge du Hamas et présentant l'Iran comme un facteur de stabilité au Moyen-Orient. Le Qatar dément que l'émir ait tenu ses propos, mais il reflète assez largement la position de l'émirat aux antipodes de celle de ses voisins et alliés du CCG, le Conseil de coopération du Golfe. Ce qui est sûr, c'est qu'une véritable campagne s'est déclenché contre le Qatar à partir de là. Pour le CCG, qui a connu bien des tensions internes depuis sa création en 1981, c'est un tournant sans précédent. Le message envoyé par Riyad est clair. Tous ceux parmi ses voisins qui ne s'alignent pas sur sa position hostile à l'Iran sont désormais considérés comme des ennemis.
Pour le moment, les deux autres membres du Conseil de coopération du Golfe ne suivent pas. Il s'agit du Sultanat d'Oman qui a lui aussi toujours maintenu de bons rapports avec l'Iran et du Koweït qui a tenté ces derniers jours une médiation entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Est-ce une conséquence de cette décision du clan sunnite vis-à-vis du Qatar et en toile de fond de l'Iran? En tout cas, Téhéran a été le théâtre mercredi de plusieurs attaques revendiquées par l'État islamique, une fusillade dans l'enceinte du Parlement et une double attaque kamikaze au mausolée de l'Ayatollah Khomeini. Siavosh Ghazi à Téhéran.
Le président Rouhani a appelé à la coopération régionale et internationale pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme dans un message après les deux attentats. Il a accusé ceux qui veulent du mal à l'Iran d'avoir recruté des éléments réactionnaires pour mener ces attentats et faire oublier leurs échecs régionaux. Pour leur part, les gardiens de la révolution, l'armée d'élite du régime iranien, sont allés encore plus loin en accusant les États-Unis et l'Arabie Saoudite d'être impliqués dans les attentats de Téhéran. Un responsable des gardiens a accusé directement l'Arabie Saoudite et les États-Unis d'avoir recruté des marionnettes pour mener ces attaques. Téhéran est très impliqué en Syrie et en Irak en envoyant des conseillers militaires et des volontaires iraniens sur place pour lutter contre le groupe État islamique et Al-Qaïda. En mars dernier, le groupe djihadiste avait publié une vidéo en persan pour affirmer qu'il allait provoquer un bain de sang chez les chiites iraniens et conquérir l'Iran et le rendre à la nation musulmane sunnite. Les djihadistes considèrent en effet les chiites majoritaires en Iran comme des infidèles.
Le Kurdistan irakien fait un pas de plus vers son indépendance. L'exécutif de cette région autonome de 4,5 millions d'habitants veut organiser un référendum sur la question en septembre. Une annonce qui intervient à un moment favorable pour les Kurdes, très soutenu par les États-Unis dans leur guerre contre Daesh. Sébastien de Courtois, cette dernière information vous surprend-elle et quelles conséquences peut-elle avoir en Turquie ?
Non, c'est dans la lignée de ce qui avait été prévu depuis une longue date. On parle bien du Kurdistan irakien. Hein. Nous sommes dans le cadre de l'Irak, donc cette Nord qui est de fait indépendant et autonome depuis le milieu des années 90 avec une interdiction de survol. Donc c'était attendu. Voilà. Donc ils osent franchir le pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette partie kurde du nord de l'Irak, en fait, ne vit que grâce à la Turquie. La famille Barzani, donc, qui gouverne depuis pas mal de temps déjà, et je crois que ça cause certains problèmes au niveau local, en termes de transmission héréditaire ou pas du pouvoir, un pouvoir féodal quand même, basé à l'origine, se sont toujours très bien entendus avec les Turcs, voilà. Contre aussi les Kurdes de Turquie, donc, qui sont plutôt du PKK, enfin pas tous les Kurdes de Turquie bien entendu, mais qui idéologiquement sont complètement opposés en fait à la vision un peu féodale et traditionnaliste des Kurdes d'Irak. Donc même on voit très bien que dans le monde kurde il y a des tensions internes entre toutes ces composantes, des langues avec des variables et un passé politique très différent. Et on pourrait ajouter la troisième perspective un jour, c'est la zone kurde de Syrie, voilà, qui pose beaucoup de problèmes à la Turquie en ce moment. On a vu que les Turcs ont été dégagés pratiquement manu militari de cette prise de Raqqa, donc la bataille de Raqqa qui vient de commencer, et ce sont les YPG, donc on appelle ça les forces supplétives kurdes, qui sont elles-mêmes liées aux Kurdes de Turquie, PKK, YPG, c'est un petit peu dans la même mouvance politique. Et voilà, et ça inquiète beaucoup la Turquie, parce que la Turquie, à juste titre, d'une certaine manière, ne veut pas avoir deux fronts, en fait, c'est-à-dire le front kurde de Turquie et le front kurde de Syrie. Donc on est dans une distribution des cartes en ce moment, et il va se passer des choses importantes. Alors ça ne m'étonne pas que les Kurdes d'Irak, à ce moment-là, demandent où commence un processus d'indépendance qu'il mérite aussi d'une certaine manière.
Oui, ce n'est qu'un début, semble-t-il.
Ce n'est qu'un début, voilà. On parle d'un référendum, si j'ai entendu la bonne information. Donc il faut voir les conditions ensuite et la négociation de sortie de l'Irak, surtout. Je suis pas du tout sûr que Bagdad accepte aussi facilement un éclatement de l'Irak. Et y aura-t-il une reconnaissance internationale? Voilà.
Peut-être
c'est la grande question.
Les Américains seront-ils les juges de paix en la matière au moment venu?
C'est possible, c'est possible.
Alors Sébastien de Courtois, revenons à vos lettres du Bosphore que vous publiez chez Le Passeur. Alors nous parlions tout à l'heure en début d'émission du détroit du Bosphore qui sépare bien en quelque sorte deux parties de la ville, occidentale et orientale. C'est un point de passage, mais en même temps vous dites dans une de vos chroniques que la géographie nous rappelle qu'en fait c'est aussi un lieu qui permet le passage notamment des Russes qui ont un accès direct sur la Méditerranée. Et d'ailleurs ça s'est vu lorsque les Russes ont renforcé leurs forces militaires en direction de la Syrie.
Quand on habite à Istanbul, c'est difficile de ne pas voir le Bosphore déjà et de ne pas être enthousiasmé, fasciné par cette étendue d'eau. Les courants sont très forts et ce sont des dizaines de navires immenses qui le traversent tous les jours, des tankers, des porte-conteneurs, et qui nourrissent finalement tous les ports de la mer Noire. Alors on parle de la Russie, Sébastopol, voilà, qui est russe maintenant, il faut le savoir. Et tout un tas d'endroits, on pense à l'Ukraine, bien entendu, au port ukrainien, je pense à la Bulgarie qu'on oublie, à la Roumanie, à la Géorgie aussi, qui dépend énormément de ce trafic maritime. Donc en fait, ce petit détroit, qui au fond n'est pas bien grand, quand vous arrivez en avion sur Istanbul, vous vous dites, finalement, ça pourrait très bien être collé, on voit très bien encore la tectonique des plaques qui a laissé ses traces. Et on se rend compte, en fait, que c'est un passage entre deux mondes, voilà, une espèce de mer intérieure, qui est la mer Noire. La petite allusion que j'ai faite avec cette tribune sur les navires russes, c'était tout simplement le fait que la grande géopolitique, en fait, parfois, ça commence par une observation du quotidien. Et il y a des gars qui sont fascinés à Istanbul, qui regardent les bateaux, qui les photographient et qui les identifient, parce qu'ils s'intéressent aux bateaux. Et tout d'un coup, on a vu sur les Facebook un nombre de bateaux russes exponentiel. Et c'est là qu'on a compris, en fait, que le corps expéditionnaire russe était en route pour l'attaquer en Syrie.
Alors pour rester très brièvement sur les Russes et la Russie, un avion russe a été abattu par l'aviation turque. Mais est-ce que cet événement, en fait, n'en cachait pas deux autres, deux politiques intérieures? Eux, c'est l'arrestation de deux journalistes de Kumon Riyet et l'assassinat de l'avocat bâtonnier de Diyarbakır. C'était
oui,
la même période.
Il y a beaucoup de choses en même temps, en fait. Donc, il y a toutes les semaines quelque chose de grave qui se passe en Turquie. Vous faites référence à l'arrestation de plusieurs journalistes de Cumhuriyet, qui veut dire La République, le grand quotidien d'opposition. Vous faites référence à l'avion russe qui a été abattu par l'aviation turque, et puis après on a accusé, le gouvernement a dit que c'était des gulenistes. Enfin bon, il y a toutes les semaines des quelque chose de dramatique. L'ambassadeur russe qui a été assassiné à Ankara devant les caméras de télévision. Mais ce qui est intéressant au fond là-dedans, c'est de voir que l'histoire se retrouve, parce que Istanbul, Constantinople avant, en fait, était une ville qui a aussi été russe d'une certaine manière. Enfin, je parle de ce monde slave, de ce monde byzantin. Encore aujourd'hui à Istanbul, il y a une petite communauté russe. Les Russes blancs sont arrivés en masse après la révolution bolchevique de 1917. On trouve encore des traces de ces vieilles familles, j'en ai rencontré. Les églises du quartier de Karaköy, les églises qui sont sur le toit pour les pèlerins qui allait en pèlerinage en Terre Sainte. Donc véritablement, cette Istanbul, ces détroits, a toujours été un lieu de passage et les Russes sont là de longue date.
Sébastien de Courtois, nous marquons une pause pour écouter les informations de ces dernières heures. On se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. Merci pour toutes ces informations. On se retrouve pour vivre 7 jours d'événements avec la rédaction.
Une semaine d'actualité.
Nous sommes en compagnie de Sébastien Lecourtois, écrivain, journaliste, auteur de « Lettres du Bosphore » publié chez Le Passeur Éditeur. C'est en quelque sorte un journal de bord dans lequel vous évoquez à la fois ce qui va bien et ce qui se dégrade. Alors c'est notamment le cas en politique. À partir des élections législatives de novembre 2015, là, ça se dégrade.
J'ai trois amis en prison, par exemple. C'est pas commun quand même de se dire qu'on a des copains en prison pour leurs opinions politiques. Les dossiers sont vides, les droits sont à peu près respectés, mais les gens ont peur. Les avocats ont peur de faire leur métier, et les juges aussi ont peur. Ils reçoivent des pressions très importantes de la part du pouvoir politique. Bon, ça c'est une chose.
Ce sont des Turcs.
Deux Turcs et un Français, on parlait de Mathias Depardon tout à l'heure, et l'un des Turcs est Kadri Gürsel, qui est un journaliste remarquable, qui avait sorti un très beau petit livre l'année dernière aux éditions du Cerf, Turquie année zéro. Je le recommande parce qu'il explique justement de manière très précise, très pointue, le mensonge politique en fait qui a précédé les élections de 2015, voilà, qui ont légitimé pour un nouveau tour ce système de gouvernement. Voilà. Sur la politique, c'est difficile de tout dire, bien entendu, mais prenons en considération, par exemple, sans remonter si loin, les résultats du dernier référendum, donc au cours du mois d'avril, et qui met en place la possibilité de réformer la Constitution. En soi, pourquoi pas, cette Constitution turque était issue du coup d'État de 1980, donc bien entendu, on peut toiletter, c'est tout à fait normal. Le résultat n'est pas aussi clair que ça. On est à un peu plus de 51% en faveur de la réforme, et donc la conséquence, c'est qu'il y a véritablement un partage de politique,
des opinions.
Pour moi, c'est pas vraiment une victoire. Ils s'attendaient tous à 60% voire plus, et ce qui montre en fait une Turquie partagée. Tout à l'heure, on parlait du Bosphore pour partager le pays en deux. Ben là, c'est une autre frontière, bien entendu, qui est beaucoup plus modulable. Mais pour moi, la Turquie est un pays vraiment partagé en deux. Il y a avec moi ou contre moi. C'est la politique du président Erdogan depuis des années, depuis le début pratiquement. Simplement, à l'époque, on voulait pas le voir, on était bercé un petit peu de nos illusions. Mais maintenant, voilà, les deux blocs de la société sont vraiment remontés l'un contre l'autre. Des familles se divisent à cause de ça. Des gens sont complètement déclassés socialement quand ils sont renvoyés de leur métier à cause d'une prétendue appartenance à un réseau guléniste. Voilà, là, c'est compliqué. Mais je tiens vraiment à mettre en avant cet aspect contestataire, et n'oublions pas, la moitié des citoyens turcs ne sont pas d'accord avec cette politique.
Alors Sébastien Lecourtois, nous reviendrons tout à l'heure sur vos craintes concernant l'avenir du pays, mais aussi sur les raisons d'espérer, parce que heureusement, il y en a. Avant cela, arrêtons-nous quelques instants sur l'actualité en France. Ce dimanche marquera le premier tour des élections législatives. Le président Emmanuel Macron est en quête d'une majorité absolue, tandis que les partis traditionnels cherchent à limiter les dégâts. Une indication est venue des Français de l'étranger. Le premier tour, qui a eu lieu dimanche dernier, a porté en tête tous les candidats supporters du président de la République, Véronique Rigolet.
Sans surprise, les Français de l'étranger qui avaient voté à 93% pour Emmanuel Macron à la présidentielle semblent désormais bien décidés à lui donner une majorité pour gouverner et réformer le pays. Pour ce premier tour des élections législatives, les candidats de La République En Marche arrivent en tout cas en tête dans 10 des 11 circonscriptions, avec des scores souvent élevés, comme c'est le cas notamment dans la 10e circonscription Moyen-Orient et Afrique, hors Afrique de l'Ouest. La candidate En Marche, Amelia Lacfari, atteint 60% des voix. Seul le taux de participation, trop bas, à 11%, l'empêche de se qualifier dès le premier tour. Face à elle, le député sortant, Les Républicains, Alain Marceau, est en tout cas en très mauvaise posture pour le second tour. C'est le cas également du sortant Frédéric Lefebvre, distancé par le candidat macroniste dans la première circonscription d'Amérique du Nord, ou bien encore de la socialiste et ex-ministre Axelle Lemaire en Europe du Nord. Seule circonscription où La République En Marche n'arrive pas en tête, c'est la 9e, Maghreb et Afrique de l'Ouest. Pas de candidat macroniste dans cette circonscription. La sénatrice de Paris, Leïla Aïchi, qui avait été un temps investie, a finalement été récusée après le tollé né de sa position sur le Sahara occidental. Elle arrive aujourd'hui légèrement en tête de ce premier tour avec 20% des voix, mais sous l'étiquette divers droite.
Sahara occidental dont nous reparlerons tout à l'heure. Mardi, le gouvernement a dévoilé les grandes lignes de son projet en matière de réforme du Code du travail. Une lettre de cadrage transmise aux partenaires sociaux qui replace l'entreprise au premier plan des relations employeur-employé. Un programme chargé que le gouvernement entend mener rapidement. Abla Jonaïdi.
C'est le dossier le plus urgent pour le gouvernement. La réforme du Code du travail doit être lancée vite pour adapter le modèle social français, selon Muriel Pénicaud, ministre du Travail.
Notre droit du travail a une longue histoire, mais il s'est construit dans un contexte où les relations de travail ont été pensées dans le cadre où toutes les entreprises étaient des grandes entreprises industrielles. Il est marqué par ce modèle et les fondations sont solides et nous n'y toucherons pas. Mais en même temps, nous devons prendre en compte que l'économie a bougé, l'économie française a évolué, notre tissu entrepreneurial a profondément changé et aussi les attentes des salariés n'en sont plus les mêmes qu'il y a 20 ou 30 ans.
C'est par des ordonnances publiées d'ici la fin de l'été que le gouvernement compte agir. Mais pour ne pas raviver les tensions sociales comme lors de la loi travail menée par le gouvernement précédent, une plus grande place sera faite à la concertation, Édouard Philippe, Premier ministre.
Les organisations syndicales et patronales sont des partenaires. Toutes seront entendues, respectées et écoutées. En tant que Premier ministre, je veillerai à ce que chacun puisse apporter sa contribution à la concertation très intense qui va s'ouvrir. Je crois à la négociation, je crois à la discussion. Et la négociation et la discussion passent obligatoirement par le respect dû à ses interlocuteurs. Je m'engage à ce que cet esprit soit respecté.
Pas moins de 48 réunions avec les partenaires sociaux sont prévues en juin et en juillet.
Après Londres, Paris, un homme armé d'un marteau et en possession de couteaux de cuisine a agressé 3 policiers mardi après-midi sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame à Paris. Un policier a été légèrement blessé. L'agresseur, lui-même blessé, est un journaliste algérien de 40 ans venu en France pour soutenir une thèse de doctorat. Il vivait en banlieue parisienne, était non radicalisé, mais aurait prêté allégeance à Daesh sur Internet peu avant son acte et aurait agi seul. Daesh, justement, une force opérationnelle anti-Daesh a été mise en place cette semaine. Elle a vocation à coordonner les actions de renseignement en France en se positionnant au plus près du pouvoir. Franck Alexandre.
Une force opérationnelle composée de 50 à 100 fonctionnaires chargés de se relayer 24 heures sur 24 au palais de l'Élysée. Un groupe placé sous l'autorité directe du chef de l'État pour coordonner les services de renseignement, notamment ceux de la Direction générale de la sécurité extérieure chargée de l'espionnage et ceux de la Direction générale de la sécurité intérieure compétente exclusivement sur le territoire national. Deux services qui, historiquement, ont toujours opéré séparément et entre lesquels existent même des réticences à collaborer. En se positionnant au cœur du renseignement, l'Élysée souhaite donc gommer ses frictions et ce ne sera pas une tâche aisée, estime le criminologue Alain Bauer.
Si c'est un sujet précis, délimité, clair et qu'elle ne vient pas en plus du reste mais à la place du reste, c'est toujours une très bonne idée. Le drame, c'est de vouloir faire un outil qui serve à tout, tout le temps, pour tout, en remplacement des outils existants. Le problème, c'est que la France est plutôt spécialiste de l'empilement et du cafarnaum, donc c'est tout l'enjeu de savoir ce qu'il y a dedans.
Les personnels de la force opérationnelle auront donc pour mission de collecter toutes les informations avec un accès direct aux plus hauts responsables. Une ambition, pouvoir réagir dans un délai extrêmement court, moins d'une demi-heure, précise le gouvernement.
Sébastien de Courtois, vous vouliez réagir à la politique française.
Oui, non, sur la vision de l'étranger qu'on a eue de l'élection d'Emmanuel Macron, c'est vrai que ça a foutu un coup de vieux à la classe politique française, mais il faut savoir aussi que du petit point de vue de Turquie où je suis, c'est quelque chose qui a fait pleurer les gens de bonheur d'une certaine manière, parce que eux qui sont complètement englués dans leur classe politique, qui est corrompue jusqu'à l'os, qui intellectuellement ne représente mais strictement rien du tout, qui est pas tous bien entendu, il y a des gens intéressants, mais là ça a donné un coup de vieux à cette partie d'Europe orientale, voilà.
Et Emmanuel Macron est quelqu'un qui est apprécié.
Ah ben il faut qu'il, alors on le connaît pas, hein, attention, hein, les d'ailleurs, la grande question, c'est des journaux turcs, c'était qui est Emmanuel Macron, comme la moitié de la planète aussi. Mais néanmoins, il y a une grande curiosité sur lui. Les Turcs sont curieux de ce qui se passe en France. Hein. Il y a une francophonie, francophilie assez importante. On parle de notre président, mais parlons de Paul Ricoeur, par exemple. J'ai découvert Paul Ricoeur en Turquie, parce qu'il était traduit en turc. Alors, j'ai pas eu le vice de le lire en turc, bien entendu, mais j'ai découvert sa présence de cette manière-là. Et Mais tout un tas d'auteurs sont français, sont traduits en turc. Il y a beaucoup d'échanges culturels, littéraires, des écrivains turcs traduits en français aussi, habitants en France, à Paris, je pense à Nedim Gürsel, que j'aime beaucoup, par exemple. Voilà, il y a une vie intellectuelle qui est assez intense. Donc quand ils voient un jeune homme comme ça faire une espèce de coup d'état démocratique en 6 mois, un an et demi, ben, les gens sont complètement bluffés, c'est vrai. Ils espèrent un phénomène de cette manière-là.
Un mot de la force anti-Daesh mise en place en France avec les services qui doivent travailler en collaboration au plus près du président, c'est une bonne idée.
Ah bah c'est, je suis même étonné que ce soit que ça n'ait pas été fait déjà depuis quelque temps. Je connais pas bien le mécanisme intérieur de nos décisions. Bon, je pense qu'on a de très très bons services, mais j'espère qu'ils communiquaient jusque là entre eux, alors qu'ils soient rattachés auprès directement du président. Oui, néanmoins, il faut pas être que dans la répression, il faut être dans la prévention. Et je pense aussi à ce qu'on appelle la déradicalisation, voilà, qui est une institution. C'est l'ancienne consul de France à Istanbul, Muriel Domenac, qui s'en occupe actuellement, et je crois qu'elle fait un très très bon travail. Donc il faut prendre en considération tout le spectre de ces implications terroristes, mais être complètement sans pitié. Alors ça, je pense qu'il n'y a pas. Les Turcs sont réagissent de cette manière-là aussi.
Justement, la Turquie est-elle préparée elle à Daesh? Comment se prépare-t-elle?
Alors je dis qu'ils sont sans pitié parce qu'ils ont complètement changé de point de vue aussi. N'oublions pas que la Turquie a été une autoroute à djihadistes pendant plusieurs années avec l'accord de beaucoup d'autres puissances dans la région et ailleurs. Les torts sont partagés et quand ils ont réalisé qu'ils avaient 3 ou 4 000 combattants de citoyens turcs qui étaient impliqués dans les rangs même de l'État islamique et certainement des cellules dormantes en Turquie, là ils ont vite compris qu'il fallait changer de point de vue, donc maintenant ils surveillent et ils attaquent Daesh, mais ils sont très inquiets de ce qui peut se passer à l'intérieur.
Une semaine d'actualité.
Partons en Afrique maintenant, où le président togolais Faure Gnassingbé a été élu président de la CEDEAO à l'occasion du 51e sommet de l'organisation qui s'est tenu à Monrovia, au Libéria. Un président qui a appelé à plus d'intégration régionale et encouragé la mobilité économique dans cette région. On l'écoute au micro de Lisa Léa Westerhoff.
Il nous faut maintenant opérer des sauts qualitatifs vers notre objectif unique qui est de faire de notre organisation une CEDEAO des peuples. Il nous faudra sans plus tarder enlever les dernières barrières au brassage et à l'immigration de nos populations, responsabiliser notre jeunesse en encourageant sa mobilité économique dans l'espace régional, mettre à contribution nos hommes d'affaires, mettre à profit notre potentiel démographique, miser sur l'agriculture et l'industrialisation, tels sont autant de défis que nous devons relever ensemble pour l'épanouissement de nos populations.
Un sommet marqué par la cooptation d'un nouveau membre, le Maroc, et aussi par la présence controversée du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, de retour sur le continent africain et qui s'est lancé durant le sommet dans une vaste offensive de séduction. Les Nations Unies vont tenter de relancer les négociations sur la question du Sahara occidental, un conflit vieux de plus de 40 ans. Un nouvel envoyé spécial vient d'être nommé à cet effet. Il s'agit de l'ancien président allemand Horst Köhler, Marie Bourreau.
Sa mission est très claire. Horst Köhler doit relancer le plus rapidement possible les négociations sur le Sahara occidental en profitant d'un contexte diplomatique plus propice. Les Marocains, comme le Front Polisario, ont fini après des mois de querelles par se retirer de la zone contestée de Guerguerat et les deux parties ont laissé entendre qu'elles étaient prêtes à une reprise des pourparlers directs. Problème, le royaume chérifien continue de proposer une autonomie sous souveraineté marocaine tandis que le Front Polisario réclame toujours l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Horst Köhler devra donc trouver la voie très étroite pour mener les deux parties à la table des négociations. Il aura aussi à gérer dès son arrivée une mission qui devrait être amputée d'une partie de son personnel. Les Américains qui négocient actuellement les budgets des opérations de maintien de la paix auraient demandé à voir partir une centaine de personnels, soit un peu moins de la moitié de la MINURSO, alors que la mission vient à peine de retrouver sa pleine fonctionnalité.
La contestation dans le Rif marocain, sous la pression des autorités, deux nouveaux meneurs de la contestation populaire qui agite depuis 7 mois la région d'Al-Hoceima ont été arrêtés cette semaine. L'un d'eux est Nabil Amjik, considéré comme le numéro 2 du mouvement qui mène la fronde dans le Rif, Florence Maurice.
Selon son avocat, Nabil Amjik était recherché depuis plus d'une semaine pour avoir posté sur les réseaux sociaux 2 vidéos dans lesquelles il appelait à poursuivre la mobilisation pacifique malgré la vague d'arrestations qui a visé fin mai le noyau de son mouvement. C'est finalement à l'aube lundi que la police est venue le chercher chez lui. Maryam, sa cousine, raconte.
À 5h30 du matin, ils ont frappé la porte, presque 300 policiers. C'était très violent, oui. C'était très violent. Les policiers portaient des cagoules, des vêtements, comme mon frère, il est un terroriste.
Vous avez des nouvelles?
Non, on n'a pas de nouvelles. Où il est? Juste à maintenant, on ne sait rien.
Peu avant, Sylia Ziani, une jeune femme, figure montante du mouvement, était arrêtée elle aussi sur la route de Casablanca. Selon l'AFP, les amis qui l'accompagnaient ont été relâchés, mais au total, depuis fin mai, plus de 40 personnes ont déjà été interpellées. Et parmi eux, 20 ont été présentées au parquet et sont en détention, poursuivies entre autres pour tentative d'homicide volontaire et atteinte à l'intégrité du royaume.
Tous les développements sur cette affaire à rebondissement dans nos journaux d'information. Sébastien de Courtois, concernant le Sahara occidental, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la situation des Kurdes?
Je pense que c'est difficile parce que les Kurdes, très très peu de Kurdes demandent une indépendance au fond. C'est plutôt, il faut pas s'inventer des histoires. C'est plutôt une volonté de peut-être une forme d'autonomie, une forme de régionalisation et surtout une forme de respect de leur culture, de leur langue, dans le cadre de la République turque. Il y a les revendications même du PKK sont légèrement évoluées avec le temps, mais on est dans un contexte républicain très fort, donc la régionalisation est très 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 difficile. Voilà, les gens veulent un peu plus de liberté, un peu plus de respiration, je pense.
Sept jours en Afrique.
Parlons maintenant de l'ouverture de la 35e session du Conseil des droits de l'homme à Genève, qui était marquée par une mise en garde adressée à la RDC. Le haut-commissaire des Nations Unies, Zeid Raad al-Hussein, a donné 48 heures aux autorités de Kinshasa pour accepter de participer à une enquête sur les violences dans le Kasaï. L'ONU brandit la menace d'une enquête internationale. Carole Valade.
La situation dans les Kasaï ne cesse de se dégrader et le conflit s'étend de plus en plus, déplore le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU. Zeid Raad al-Hussein a donc annoncé l'envoi d'une mission dans la région dès la semaine prochaine et lancé un ultimatum aux autorités de la RDC. Elles ont jusqu'à demain pour répondre à sa demande d'enquête conjointe, sans quoi une commission d'enquête internationale pourrait être mise en place, comme le souhaitent également la Suède, les États-Unis, la France et l'Union européenne. Mais à ce stade, aucune structure n'est réellement définie, confie une source onusienne, rappelant que le gouvernement aurait déjà dû donner sa réponse le 25 mai dernier. Il s'agit donc de mettre la pression sur Kinshasa avant que le Conseil des droits de l'homme à Genève ne se penche sur son cas dans 2 semaines. Interrogée par la radio Okapi, la ministre congolaise des droits de l'homme affirme ne pas être opposée à une collaboration avec l'ONU à condition que la RDC conserve la direction de l'enquête.
On se souvient du dérapage verbal du président Emmanuel Macron en France à propos des Kwassa, ces petits bateaux de pêche utilisés par les migrants comoriens pour rejoindre Mayotte, le département français voisin. Le président français a appelé son homologue comorien et ce dernier estime que l'affaire, qui date du décret Balladur en 1995, pourrait se régler à cette occasion. Azali Assoumani, au micro de la correspondante de RFI, Anziza Mchangama.
Ce qu'on a pu en tirer de ce dérapage tout à fait condamnable, c'est que peut-être le monde entier avait oublié ce problème et qu'il a remis en place ce problème entre la France et nous. Et là, tout de suite, très sincèrement, moi je peux le dire, le président Macron et moi avons saisi cette occasion qu'effectivement, c'est le moment le plus approprié pour essayer de nous asseoir et de définir une feuille de route par rapport à ce problème contentieux comme tout le monde connaît et puis comment résoudre les problèmes au fur et à mesure. Mais on est convaincu que ce visa Balladur crée des problèmes. Lui et moi, on en est convaincus là-dessus.
Une semaine d'actualité.
Sébastien de Courtois, revenons à votre livre pour lequel nous vous avons invité, Lettres du Bosphore, publié, je le rappelle, chez Le Passeur Éditeur. Alors, à ces lectures, on comprend que la Turquie est un pays plutôt contrasté. C'est aussi, d'ailleurs, un pays multiculturel, vous l'écrivez. Témoin, ces communautés syriaques orthodoxes qui vivent dans le sud-est, en pays kurde. C'est le Tur Abdin, c'est cela ?
La montagne des serviteurs de Dieu, voilà, le Tur Abdin. Alors, c'est mon jardin secret, en fait. Normalement, je ne devrais pas en parler, parce qu'il s'agit d'une petite région confinée dans ces collines magnifiques, au nord de la frontière syrienne. Nous sommes pas très loin du Hakkari, irakien, enfin, toutes ces régions de l'extrême sud-est de la Turquie.
Territoire kurde ?
Alors, territoire turc, mais habité en grande majorité par des populations kurdophones, exactement. Et parmi elles, quelques communautés chrétiennes, dont celle des syriaques orthodoxes, qui utilisent l'araméen comme langue maternelle. Et il y a des monastères.
La langue du Christ.
La langue du Christ, voilà. Et il y a des monastères, donc ce sont les derniers monastères de Turquie, avec une vie monastique, avec des religieuses, des pèlerins qui viennent de l'étranger, qui viennent d'Europe, parce que beaucoup de ces chrétiens ont dû quitter la Turquie dans les années 70, 80, 90, à cause de la guerre déjà contre le PKK, entre l'armée turque et le PKK, et ils reviennent, ces gens reviennent. Donc j'ai vu un petit peu des phases heureuses, des phases plus malheureuses maintenant, où on est dans une zone de un peu plus compliquée. Voilà, mais je suis très attaché à cette région monastique.
Et c'est une région qui est en train de se revivifier. Des gens de la diaspora reviennent, vous le dites, vous l'écrivez.
Alors c'était vrai jusqu'à 2 ans à peu près. Donc ce fameux tournant de 2015 qui a été très dur. Oui, des gens étaient revenus, avaient reconstruit leur village, avaient récupéré la terre de leurs ancêtres et avaient reconstruit et même créé une activité économique qui pouvait envisager une cohabitation pacifique basée sur l'échange, sur le commerce entre ces chrétiens, les kurdes et les turcs. Il y a aussi des arabophones. Enfin, il y a tout un tas de... C'est une mosaïque, une véritable mosaïque orientale.
Et alors, dans cette région a été élue la première et la seule, sans doute, mère syriaque de Turquie.
Oui, Februni Akyol, qui était une jeune fille de 25 ans au moment où elle a été élue. Elle était la mère de Mardin, qui est une très très belle ville, un peu une petite sœur orientale d'Alep. Ces villes marchandes qui étaient établies sur la route de la soie. Donc une ville plutôt arabe, de style arabophone. Il y avait des Arméniens, il y avait des Syriaques, il y avait beaucoup de communautés religieuses. Il y a beaucoup de monastères, encore d'églises avec des minarets du XIIIe siècle aussi pour les écoles coraniques. Donc vraiment une terre de contraste. Et elle a été choisie, disons, par le parti kurde, le HDP, ce qu'on appelle le HDP maintenant, pour être la co-mère, en fait, d'un homme. L'idée du parti, en fait, étant de mettre en avant une femme dans chacune de ces circonscriptions où il pouvait gagner. Et elle a été choisie, et en plus, elle était chrétienne.
Ce qui est souvent le cas chez les Kurdes, soit de Turquie, soit de Syrie, c'est-à-dire de doubler les points de commandement, en quelque sorte, homme-femme. Ce qui n'est d'ailleurs peut-être pas le cas au Kurdistan irakien.
Bah, ils ont compris l'importance de la femme, ne serait-ce que dans la vie familiale. Alors, il faut c'est la femme qui gouverne la Turquie. Enfin, tout, c'est étonnant. Donc, ils ont eu l'intelligence de les mettre en avant en politique. C'était essentiel. Et ça a bien marché parce qu'il y a eu des personnes très importantes qui ont donné une meilleure image de ce coin-là de la Turquie, qui est quand même à la base très conservateur. Donc une espèce de féminisme porté au cœur de ce conservatisme très macho.
Alors, autre date importante dans votre livre, juillet 2016, et le 21, vous écrivez « Temps pourri sur la Turquie, météo couverte, ne sortez sous aucun prétexte ». Message clair pour commenter la réaction à la tentative de coup d'État.
Bah déjà, le coup d'État en lui-même, bon, c'était quand même une surprise. Et puis, la réaction a été très dure parce que il n'est pas certain que le pays puisse s'en remettre. Ce sont des dizaines de milliers de fonctionnaires qui ont été mis à pied. L'armée et la police ont été décapités. Je vois pas dans le problème, sécuritaire actuel, ce c'est pas du tout une bonne nouvelle, ni pour eux, ni pour nous-mêmes. On a besoin, malgré tout, d'une Turquie forte, d'une Turquie sûre d'elle-même. Donc une Turquie qui se fait elle-même un suicide, un harakiri politique au cœur de l'été dernier, c'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde. Alors j'ai essayé un petit peu dans mon livre de dédramatiser un petit peu ces questions-là, en parlant aussi des bonnes choses, de la vie à Istanbul, la société, la culture, l'hospitalité, qui sont toujours des basiques de la vie en Turquie. Sinon, ce serait invivable. C'est un pays, au fond, que j'aime énormément. Et je me sens turc maintenant, après pratiquement 10 ans de vie sur place. Et je suis très triste de voir ce recul démocratique et de voir les gens souffrir, surtout.
Est-ce que, selon vous, l'ordre civil, à ce moment-là, donc en juillet 2016 et après, a été rétabli par les mosquées plutôt que par le pouvoir civil?
Ah bah très clairement, oui, il y a eu des appels au djihad le soir même. Alors certains disent au même moment que le coup d'État, donc ça laissait supposer qu'il y avait une organisation préconçue. Donc il faut pas être complètement dans la théorie du complot, c'est pas Erdogan qui a organisé ce coup d'État, mais il a réussi de manière très intelligente et adroite à récupérer l'affaire pour le coup s'installer encore plus dans la durée et se présenter finalement lui-même comme un second Atatürk, c'est-à-dire quelqu'un qui libère une seconde fois le pays. Il présente le coup d'État de l'été dernier comme une seconde guerre d'indépendance.
Merci Sébastien de Courtois, écrivain, journaliste, spécialiste des chrétiens d'Orient.
Merci beaucoup.
Je renvoie à votre livre « Lettres du Bosphore » publié chez Le Passeur Éditeur. Une semaine d'actualité réalisée par Vanessa Rowensky. Retrouvez aussi l'émission pour la podcaster sur le site de la radio www.rfi.fr ou à la page Une semaine d'actualité sur Facebook. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.